Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Niveau Supérieur, niveau 4. Aujourd'hui on parle de la Final Fantasy 4, et ça c'est quelque chose de puissant.
Puissance 4,
1, 2, 3, 4, tu gagnes.
Alors j'espère que ça va bien depuis le temps. Parce que ça fait un peu de temps quand même qu'il n'y a pas eu d'épisode. Ça, c'est l'épisode d'avril, vous vous rendez compte qu'on est au mois de mai. Beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés à sortir l'épisode. J'avais terminé l'épisode d'avant en disant que la prochaine fois, on jouerait à Suikoden. Et là, vous voyez, j'annonce FF4. Il y a eu un petit changement, Suikoden, je sais pas, ça m'a saoulé, c'était un peu trop sec. Il y a des choses intéressantes dans le jeu, mais je sais pas, ça m'allait pas. Il y avait un truc qui fonctionnait pas. Du coup, j'ai changé de jeu, j'ai joué à FF4, j'ai dû me dépêcher de le finir. Et depuis que je l'ai terminé, il y a peut-être une semaine et demie, j'ai pas eu le temps d'enregistrer parce que j'ai plein de travail, parce que j'étais malade. Voilà quoi, la petite vie, écoutez, on fait comme on peut, on est des artisans. Pas toujours facile, surtout en ce moment avec la pandémie. Donc voilà, écoutez, on y est, on est là malgré tout. On va parler de Final Fantasy 4. C'est la première fois qu'on parle de la Final Fantasy, donc ça y est, on peut le dire ensemble. On est en Final Fantasy, on est en Final Fantasy, on est en Final Fantasy. Voilà. Je tournais un peu autour du pot depuis quelques temps. C'était un peu attendu, donc je voulais faire attendre encore un peu plus pour être chiant. Mais ça y est, on parle de FF, une des plus grandes séries du JRPG, sûrement celle que beaucoup de gens connaissent, une de celles qui me tient le plus à cœur, que, alors, vous vous doutez bien, j'ai fini très peu de Final Fantasy, mais j'en ai joué à beaucoup, sans les finir. J'espère, c'est un début dans la vie, un jour finir tous les FF, et j'espère le faire avec vous. Et du coup, là, on commence. Pourquoi on commence par le 4? Parce qu'on parle toujours des mêmes, on parle toujours du 7, du 9... Et compagnie, je me suis dit, tiens, changeons un peu, soyons un peu malins, même si on arrive enfin à quelque chose que tout le monde attendait, autant y arriver d'une façon qu'on n'attendait pas. Toujours être un peu surprenant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour rester officiel que j'essaye de prendre des chemins un peu biais, quoi. Bon, vous avez compris, hein, voilà. Du coup, on va parler de Final Fantasy 4. C'est le premier Final Fantasy sorti sur Super Nintendo. Il est sorti le 19 juillet 1991 au Japon. Il est sorti 5 jours avant que je ne sorte du ventre de ma mère. On était fait pour s'entendre. Et il est sorti aux États-Unis en novembre de la même année, donc novembre 91. Sauf qu'il est sorti là-bas sous le nom de Final Fantasy 2. Tout simplement parce que Square, le studio de développement qui fait Final Fantasy, a sorti le premier Final Fantasy en Occident, mais n'a pas sorti le 2 ou le 3. Du coup, qu'à cela ne tienne, ils ont sorti le 4 en l'appelant le 2. Et en plus de ça, d'avoir pas le vrai nom, ils avaient aussi rendu le jeu plus facile pour que les Occidentaux puissent ne pas être trop effrayés par ce genre qui ne perçait pas trop à l'époque, on est en 91. Donc c'est un peu, si vous jouez à FF2, version américaine, vous jouez à un Final Fantasy un peu modifié, parce que plus facile. Et aujourd'hui, c'est très dur de jouer au Final Fantasy 4 sorti au Japon sur Super Nintendo, parce qu'ils ont fait un remake Square en 2008-2009 sur DS. Ce remake, il change totalement le style graphique. On passe d'un truc Super Nintendo, donc des pixels en 2D, à quelque chose sur DS qui, vous pouvez regarder des images, vous pouvez taper FF4 DS, ou même aller voir sur Steam ou sur ce que vous voulez, parce que c'est cette version-là qui est vendue aujourd'hui. Un style beaucoup plus... Alors, j'hésite entre deux mots. Soit on peut dire juste un style 3D, hein, qui fait un peu penser à Bravely Default, si vous connaissez. Soit un style, je dirais moche, peut-être, tout simplement. Je suis désolé, mais les sprites en 2D ont beaucoup plus de charme, je trouve, que les espèces de petits bonhommes 3D... Ouais, j'aime pas. J'en reparlerai, bien sûr, en temps et en heure, je m'avance un peu. Mais voilà, au moins ça pose les bases de ce que c'est FF4. Du coup, premier jeu sur Super Nintendo. À l'époque, en 91... Final Fantasy, ça commence à devenir un peu connu, à se taper un peu la bourre avec Dragon Quest, qui reste le géant de l'époque. Donc, il commence à avoir un peu le vent en poupe, à être un peu reconnu, mais quand même, c'est une nouvelle machine sur laquelle il se lance avec FF4, c'est la Super Nintendo, on change de la NES, et ils ont encore cette position un peu d'outsider. Ils doivent essayer de faire quelque chose par rapport à Dragon Quest. Ils commencent à être un peu réputés, mais c'est pas encore non plus les kings. Du coup, c'est un épisode intéressant pour ça. C'est aussi un épisode intéressant à étudier parce qu'il pose vraiment beaucoup des bases de Final Fantasy, des trucs qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, notamment le système de combat, etc. Et puis, l'équipe qui travaille sur FF4, c'est un peu les grands noms qu'on connaît et qui certains sont là depuis le début, d'autres arrivent seulement maintenant mais vont rester très longtemps. Le producteur, le chef de projet, le directeur, vous le connaissez peut-être si vous aimez un peu les JRPG, c'est Hironobu Sakaguchi, bien sûr, c'est un peu le papa de Final Fantasy, celui qui est là depuis le début, qui a eu l'idée du jeu. Celui qui réalise le jeu, ceci dit qu'il fait vraiment, qu'il l'écrit, c'est pas tant Sakaguchi que Tokita. Je savais pas avant de bosser un peu pour préparer l'épisode que Sakaguchi avait vraiment plus un rôle de producteur, à partir du 4 je crois d'ailleurs. Et du coup, c'est jamais vraiment lui ensuite qui va écrire totalement les jeux ou les réaliser en mettant les mains dans le cambouis. C'est plus un mec qui va gérer l'équipe, Sakaguchi, qui va donner des idées, qui va peut-être lancer des pistes qui seront ensuite développées par ses subordonnés. En l'occurrence ici, Tokita, qui du coup a réalisé FF4, qui plus tard sera aussi directeur sur Live Alive, un JRPG un peu chelou, qui pourrait être sympa à faire à l'occasion. Il a aussi fait, je crois, Chrono Trigger, il a bossé dessus, en lead quelque chose, et surtout, il a aussi plus tard fait Parasite Eve, donc un grand monsieur du JRPG, on peut le dire. C'est aussi lui qui a fait le remake sur DS de son jeu, du coup, FF4. Il a aussi fait la suite de FF4, parce qu'il y a une suite à FF4, il n'y a pas que FF10, FF10-2, ou la trilogie FF13, il y a aussi FF4-2, entre guillemets, ça s'appelle FF4 les années suivantes en français. C'est un peu nul comme sous-titre, les années suivantes, on dirait la suite d'une série AB Productions. On se retrouve maintenant pour une dose d'humour, d'amour et d'amitié avec FF4 les années suivantes. Bien sûr à la musique, hein, toujours les têtes connues, il y a Nobuo Uematsu qui va rester sur FF jusqu'au 9 ou 10, un truc comme ça peut-être. Au design des personnages, des monstres, il y a Amano qui va aussi rester sur la série. Aujourd'hui je crois qu'il fait plus que les jolis logos derrière le nom Final Fantasy, mais pendant longtemps il a fait le reste aussi. Vraiment un très beau travail hein, d'Amano. Ne pas oublier malgré tout que cet homme est d'extrême droite. Hein. On le dit en passant quand même, faut l'avoir en tête. Il y a aussi Kazuko Shibuya qui, sur les premiers FF, faisait les petits bonhommes en pixels qu'on voit dans les scènes de combat, qui a été très importante pour ça et qui a un style assez caractéristique, qui est assez cool. Et enfin, pour finir, ce petit name dropping interminable, cette petite brochette de noms qui feront peut-être plaisir à certains, il y a aussi Nomura et Kitase qui bossent sur FF4. Mais ils font pas grand chose. C'est un peu leur FF où ils commencent à débuter dans l'équipe. Et vous savez peut-être que Nomura aujourd'hui, bah, c'est celui qui fait les Kingdom Hearts, qui dirige beaucoup de choses chez Square. Et Kitase, c'est celui qui va diriger FF7. Et qui, encore aujourd'hui, est une grosse ponte chez Square aussi. Du coup, beaucoup des équipes qui vont rester longtemps, pour certains qui sont encore là aujourd'hui, et beaucoup des systèmes de jeu, et même des façon de raconter l'histoire, même des thèmes qui sont abordés, la façon dont les personnages se développent, etc. Beaucoup de choses vont être fixées dans ce Final Fantasy IV, déjà en 91, c'est-à-dire qu'il y a presque 30 ans. Alors ça ne veut pas dire que parce que le jeu est sorti, quand moi je suis sorti aussi, lui il a 30 ans, moi c'est pas pareil. Vous savez, les années en jeu vidéo, ça compte pas pareil que pour les humains, donc ne tirez pas de conclusion hâtive. Tout ça pour dire que, est-ce que 30 ans après, en jouant à la version sortie originellement en 91, en jouant pas au remake DS, en jouant pas à la version occidentale, est-ce qu'on peut encore trouver quelque chose d'intéressant? Parce que moi, j'avais déjà joué un peu à ce jeu, à la version DS, que j'ai encore là d'ailleurs, mais là j'avais envie de jouer à la vraie version, de voir vraiment quelque chose un peu d'époque, de sentir un peu la poussière, la bonne odeur d'un grand cru, d'un grand millésime. Je suis allé dans ma cave, j'ai un peu passé un petit coup de main sur le tonneau, j'ai soufflé un peu sur la cartouche, j'ai senti, j'ai fait un peu bouger la cartouche pour voir quelle était sa robe, et j'ai dit ça, ça m'a l'air d'être un grand cru, un bon JRPG. Je vais le goûter pour voir comment il a vieilli, voir quels sont les arômes. Est-ce qu'il y a un peu de framboise ? Bref, ouais, je suis pas très fort en vin ni en imitation. Du coup, FF4, aujourd'hui, est-ce que c'est encore super ? Est-ce que c'est encore puissant? Ou est-ce que c'est un 4-4 qui est bon parce qu'il est nostalgique, mais qui en soi n'est pas non plus incroyable? Ou est-ce que c'est un 4-4 qui peut affronter le tout-terrain des années qui passent? Voilà. Pas d'histoire avec le jeu, c'est vrai, j'ai un peu joué par-ci par-là il y a longtemps, mais pas plus que ça. Après, j'ai une histoire avec Final Fantasy, comme je vous l'ai dit. Du coup, vu que c'est une série qui, à chaque épisode, change totalement d'univers, change totalement d'histoire, de personnage et tout, on pourrait se dire que c'est pas grave d'avoir joué à un FF et pas à l'autre, mais il y a des trucs qui reviennent quand même. Dans la musique, il y a des thèmes musicaux qui sont repris d'un épisode à l'autre. Il y a certains noms, certaines créatures qui reviennent, etc. Du coup, même sans avoir d'histoire directe avec FF4, ou alors une histoire très, très peu intéressante, j'ai quand même été séduit et directement, j'ai pu enfiler mes pantoufles, quoi. J'ai reconnu la musique, j'ai vu des chocobos, ce sont des petits oiseaux jaunes un peu mignons qu'il y a dans tous les FF. J'ai vu qu'un mec s'appelait Sid, comme dans aussi tous les FF, toujours un personnage qui s'appelle Sid. Donc voilà, j'étais pas non plus perdu. Et directement, il y avait une sorte de nostalgie qui s'est emparée de moi, on peut le dire. J'ai été nostalgie. My nostalgie, my baby nostalgie, good Ceci dit, c'était la première fois que j'étais confronté à un Final Fantasy d'époque, avec des petits pixels en 2D assez étranges. Et ça a été quelque chose qui aurait pu être un peu déstabilisant, qui aurait pu me faire peur, mais pas du tout. Au contraire, même si je suis un enfant de la PlayStation, j'ai quand même grave kiffé le graphisme en 2D de la Super Nintendo, tous ces petits personnages mignons. Et je trouve même que si on compare à des JRPG modernes, comme ceux qu'on a fait quand on a fait Tales of Vesperia ou Dragon Quest XI, qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus beaux, on voit le détail sur la cape du héros, on voit la flamme dans ses yeux, même s'il n'y a pas ça. Sur FF4, je trouve que les sprites, du coup c'est le nom qu'on donne aux assemblages de pixels qui forment les monstres ou les personnages, les sprites en 2D, ils sont vachement touchants, je trouve, et beaucoup plus évocateurs. Avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque pour retranscrire tout un univers, tout un monde qui dans FF4 est assez ambitieux parce qu'il y a... Alors je vais un peu spoiler, je vous le dis directement, c'est bon, le jeu il a 30 ans, vous allez vous en remettre. Du coup, un monde très ambitieux parce qu'il y a le monde où on commence de base, ensuite il y a un monde souterrain, après... Attention, c'est là que je spoil, on va sur la lune. Bref, c'est un univers très développé, très vertical, avec plusieurs couches. Et tout ça fait en 2D, avec peu de moyens quand même. C'est leur premier jeu sur Super Nintendo. Ils connaissaient pas encore totalement la machine. Et mais je trouve que du coup, ils doivent être beaucoup plus évocateurs que démonstratifs. Aujourd'hui, Dragon Quest XI, le premier jeu qu'on a fait ensemble, c'est un open world en 3D, parfois un peu vide, mais du coup tout est représenté à l'échelle 1 pour 1, entre guillemets. Alors que là, ils doivent faire passer beaucoup de choses, ils doivent donner beaucoup d'ampleur à un espace uniquement vu en 2D, qui est représenté de façon un peu, bah justement, évocatrice, qui doit montrer peu, mais faire comprendre beaucoup. Et du coup, notre imagination est mise en jeu, et ça se retrouve dans la façon dont on représente les personnages. Justement, les sprites, ils sont assez reconnaissables. Le design, je pense qu'on design pas du tout pour de la 2D comme on design pour de la 3D, parce que malgré tous les jolis concept art qu'on peut faire, bah à la fin, à l'écran, il y aura plus grand chose qui va ressortir, donc vous soyez vraiment très reconnaissable rapidement, d'un coup d'œil. Aujourd'hui, ça peut être un peu plus complexe, peut-être, les caractères design, le design des personnages, mais à l'époque, ça devait être très concis et très facilement reconnaissable, et du coup, je trouve que, justement, on les reconnaît bien, ils ont beaucoup de personnalité, alors que c'est trois tas de pixels, quoi. Et ces graphismes en 2D qui doivent être forcément évocateurs pour combler un peu le manque de moyens matériels, même dans les scènes d'émotion, même dans les scènes de dialogue, on sent ce truc, on sent cette envie d'évoquer, de faire comprendre, de laisser un peu de place à l'imagination du joueur qui doit être beaucoup plus actif que dans un jeu avec des graphismes en 3D où là on peut juste regarder un film, être un peu plus distant. Là on doit s'impliquer, on doit mettre un peu de nous comme quand on lit un livre pour combler les trous. Et du coup je trouve qu'on participe beaucoup plus aux scènes d'émotion parce qu'ils utilisent vachement le pantomime. Les personnages ils sont beaucoup plus expressifs, ils sautent quand ils sont contents, ils courent quand ils sont énervés, ils se prennent dans les bras, etc. Enfin ils doivent être vachement plus expressif et il doit beaucoup plus exagérer, un peu comme des acteurs de théâtre par rapport à des acteurs de cinéma. Et cette exagération et ce pantomime et ces côtés évocateurs fait qu'on s'implique plus. Et ça, ça fait qu'on a tout de suite beaucoup moins de distance par rapport à ce qui se passe que si c'était un jeu en 3D comme c'est le cas sur DS, où là il y a des jolies cinématiques en images de synthèse et où finalement on se retrouve plus, comme ce que je vous ai dit par rapport à Tales of Vesperia, à devoir mélanger et faire le lien dans notre tête entre les scènes de combat qui sont vues de 2D, la représentation du monde en 3D quand c'est fait avec le moteur du jeu et ensuite les scènes en images de synthèse. Beaucoup de façons différentes de raconter l'histoire qu'on doit mélanger dans notre tête, ce qui crée l'état contemplatif, on en avait parlé, mais au moins là il y a une sorte de cohérence globale, on n'a que ces outils-là à utiliser, on a peu de moyens et du coup tout sera raconté à travers le même outil. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça super. Et d'ailleurs, ça va à tel point que même parfois, des scènes importantes du jeu sont racontées à travers l'interface en 2D qui est censée être utilisée uniquement pour les combats. Du coup, là, vraiment, on a une économie de moyens imposée par le matériel, par le hardware, par la Super Nintendo. Mais je trouve que ça joue en la faveur du jeu. Parce qu'on ne se disperse pas. Notre attention, elle est concentrée uniquement sur ce qui se passe. Et en plus, du coup, on doit mettre plus de nous, plus d'imagination, comme quand on lit un livre, pour combler les trous, pour combler ce monde qui est évoqué plus qu'il n'est décrit, plus qu'il n'est représenté. Il est représenté évidemment, mais d'une façon plus simpliste et qui du coup implique plus le joueur. Donc j'ai trouvé ça super finalement, ça aurait pu me rebuter les graphismes d'il y a 30 ans, mais pas du tout, au contraire même. Et du coup je trouve qu'on est encore plus impliqué dans l'histoire. Donc c'est super. Alors l'histoire, justement, parlons-en. FF4, c'est un jeu qui raconte l'histoire de Cécile, un chevalier noir au service du royaume de Baron, Cécile, au début du jeu, du coup, il est à la tête des Red Wings. Je sais qu'on dirait le nom d'un truc à KFC, mais non, c'est le nom de flotte aéronavale de Baron, parce qu'ils ont des bateaux qui vont dans les airs, et ça, c'est stylé. Et du coup, voilà, le roi de Baron, il dit à Cécile, tu emmènes les vaisseaux, tu vas avec eux, tu récupères tous les cristaux, parce que j'ai besoin des cristaux, c'est comme ça. Du coup, bah, on va récupérer les cristaux chez les gens qui se défendent pas trop. Du coup, Cécile, il se sent un peu nul, il se dit, bah tiens, est-ce que le roi, il est pas un peu chelou de nous demander de tuer des gens innocents pour des cristaux, je comprends pas trop l'idée, etc. Et ses soupçons se confirment quand Cécile est envoyée avec son ami d'enfance, Cain, qui est un chevalier dragon. Et ils doivent tous les deux aller dans le village de Mycidia pour aller déposer un objet qu'on nous donne, qui est dans l'inventaire, qui s'appelle un bomb ring, en anglais, donc un anneau-bombe. Bon, apparemment, ça ne dérange personne, personne ne se pose de questions. Peut-être ils se disent, ah, cet anneau, c'est de la bombe. Ou bien ils pensent que c'est un anneau qui permet de faire de la musique. On le met à son doigt et hop, ça fait une petite musique. Mais du coup, bon bah, on arrive à Mycidia, l'anneau il explose. On détruit le village. Donc ce cliché qu'on n'a pas encore trop vu dans les jeux qu'on a fait, du village en feu dès le début du jeu, là c'est à cause de nous. Voilà, ça y est, donc ça retourne un peu l'idée, j'imagine, peut-être. Mais du coup, bon bah, Cécile, il est pas content, il arrête, il rend sa casquette, il quitte le rouge et le noir. Non, c'est bon, ce morceau-là, je vous l'épargne. On peut pas non plus tous les faire. Et du coup, bah, il part de Baron, tout simplement. Et au fur et à mesure, bon, on va suivre son aventure. Il va devoir se racheter, passer de chevalier noir à paladin, donc une sorte de chevalier de lumière. On va rencontrer plein d'autres personnages. Et bah c'est, voilà, un JRPG. À la fin, qu'est-ce qui se passe? On tue une sorte de dieu bizarre sur la lune, cette fois-ci, ce qui est assez ouf. Et c'est une histoire qui parle avant tout du coup de rédemption. Que ce soit pour Cécile, qui passe son temps, et c'est assez incroyable. Hein, parce qu'il y a le village des magiciens, auquel on va au début dans une cinématique entre guillemets, pour récupérer le cristal. On y retombe plus tard et tout le monde nous crache à la gueule. L'aubergiste nous vend une potion pour nous empoisonner. Les gens, ils se souviennent. On était là à faire le méchant et les gens, ils ont pas oublié. Ils ont bonne mémoire. Du coup, on vit vraiment cette honte et le mal qu'on a fait. Et après, on fait en sorte de se racheter. Et c'est un jeu vraiment qui parle de ça parce que même Cain aussi, notre ami d'enfance qu'on croise, après il est plus là, après on le recroise, il arrête pas d'être contrôlé par le méchant du jeu, qui a un nom un peu nul, le méchant s'appelle Golbez. Voilà, c'est, écoutez, pas très impressionnant, mais tant pis, bah, il n'y peut rien. Et du coup, bah, Golbez, il arrête pas de manipuler Cain pour que Cain soit méchant. Du coup, Cain, on le contrôle, après il est contre nous, après on le recontrôle, après il est recontre nous. Du coup, il y a beaucoup de personnages qui doivent comme ça se racheter. C'est vraiment une histoire de rédemption jusqu'au bout. Ce qui est un thème intéressant, un thème assez universel, j'ai envie de dire. En plus, le rythme du jeu est très rapide, hein. Vraiment, en 2 heures, il se passe énormément de trucs au début du jeu. Donc ouais, ça va vite, il se passe plein de choses. L'histoire est assez resserrée en plus, autant au niveau de l'écriture, des dialogues, que de ce qui se passe. Je crois que Tokita, il a dit que c'était important pour lui que les personnages secondaires soient vraiment des personnages secondaires. C'est-à-dire qu'ils ont des petits arcs, malgré tout, qui se résolvent, mais c'est centré sur un thème et 2 ou 3 personnages centraux, quoi. Et du coup, c'est resserré, c'est rapide, ça fait plaisir par rapport à une sorte d'inflation maximaliste qu'aujourd'hui on peut avoir dans les JRPG qui doivent durer 100 heures comme Dragon Quest. Hein. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai eu l'impression de mater 4 saisons d'une série. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Ça va vite, c'est resserré, c'est agréable. Les personnages secondaires, ils ont tous un peu leur petit moment pour briller. Chacun fait une sorte de sacrifice incroyable pour sauver tout le monde. Et spoiler, à la fin, il y en a très peu qui sont morts finalement. Donc c'est plein de faux sacrifices. C'est presque redondant au bout d'un moment, presque un peu ridicule. Mais j'imagine que c'était un peu le début vraiment dans la narration, qui se veut beaucoup plus cinématique, beaucoup plus ambitieuse peut-être que ce qu'il pouvait faire sur Nintendo, sur NES. Du coup, vraiment, ces scènes un peu incroyables, où ouais, tel ou tel personnage secondaire va se sacrifier, va avoir un moment de gloire et d'héroïsme, sont certes un peu redondantes, et en plus n'ont pas vraiment d'enjeu, parce qu'on se rend compte qu'il y en a très peu qui meurent véritablement, mais je pense que c'est là pour nous attacher aux personnages secondaires à peu de frais, parce qu'en une scène un peu extraordinaire, spectaculaire, on s'attache au personnage, on a un affect avec lui, on se dit « Ah ouais, lui, c'est un vrai, il a fait ça ». Du coup, je pense que leur ambition liée au manque de moyens fait que c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup parce que c'est simple et efficace, quoi, de faire une sorte de grand moment héroïque pour qu'on s'attache à quelqu'un et qu'on le retienne un peu. Et c'est un moment mémorable à peu de frais. Et puis ça va bien avec le thème du jeu qui est se racheter, se prouver, etc. Se dépasser soi-même pour arriver à faire quelque chose de plus grand et être digne des idéaux qu'on défend. Donc franchement, pas mal. L'histoire, elle est simple, mais elle est efficace. Apparemment, Tokita, j'ai vu dans une interview, disait qu'ils avaient dû couper les deux tiers de ce qu'ils avaient écrit. Et je crois qu'ils ont pu les remettre dans la version DS. Donc peut-être que la version DS rajoute des nuances, rajoute pas mal de scènes de dialogue, etc. Mais je trouve que dans cette version-là, originale, il y a une simplicité dans les dialogues qui vont vraiment droit au but, qui sont très claires, peut-être très explicites, peut-être trop. Mais je trouve que ça marche bien, que ça va avec cette économie de moyens, ça va avec ce rythme rapide, avec cette simplicité. Et en plus, il y a une sorte de volonté, même si le jeu se veut plus ambitieux narrativement, il y a vraiment un côté prophétie qui revient. Il y a plusieurs fois dans le jeu un écran très lent avec un texte qui défile un peu à la Star Wars pour réciter les vers d'une poésie qui concerne le jeu. Malgré ce côté ambitieux avec ces scènes assez lentes de prophétie, avec les personnages plus développés, il reste un côté conte de fées un petit peu. Déjà parce que l'univers, il a beau être assez caractéristique de ce que feront les Final Fantasy plus tard, en mélangeant science et fantasy, parce qu'il y a des bateaux volants, mais il y a en même temps de la fantasy vraiment pure souche qu'il y a plus tard dans les autres jeux, avec des nains, etc., quoi, à l'ancienne. Du coup, ce côté-là, un peu conte de fées, avec des personnages archétypaux, avec un épilogue. Moi, j'aime bien quand les jeux, les JRPG, ils ont un épilogue. J'aime bien quand on te montre le monde que tu viens de sauver. J'ai tué Dieu, bon bah voilà, Patrick, maintenant, comment sa vie, elle a changé? Est-ce qu'il me remercie? Est-ce qu'il est heureux, etc. Là, heureusement, il y a ça dans FF4, mais cet épilogue. Apparemment, tous nos héros, ils deviennent rois de leur royaume et tout, super, l'ambition, devenir roi, bravo, ça c'est bien de droite. Mais du coup, ça fait vraiment conte de fées, quoi. À la fin, tout le monde est heureux, tout le monde est content, etc., c'est super. Du coup, le jeu est vraiment dans un entre-deux, entre des débuts d'ambition narrative beaucoup plus intenses et qui vont ne faire que se développer au fur et à mesure des Final Fantasy qui vont suivre, et encore ce côté très basique, très conte de fées, sur lequel ils jouent encore un peu. Et ça correspond bien, je pense, avec le manque de moyens de l'époque. Si on doit évoquer un univers, autant que celui-ci soit connu et se repose sur des bases communes et connues, plutôt que de rentrer vraiment dans un univers très détaillé, très précis, qu'on va vraiment essayer de fouiller, ce qu'ils font après plus tard, par exemple avec FF13, qui a un lore hyper compliqué, peut-être même trop compliqué, là au moins, ils ont peu de moyens, du coup, bah vas-y, on met des nains, tout le monde sait ce que c'est les nains, voilà. Donc le jeu est vraiment entre les deux, l'histoire reste malgré tout cool, avec des thèmes intéressants, des personnages mémorables, donc ouais, franchement super. Et en plus, et Tokita le dit dans l'interview que j'ai lu, comme je vous l'ai dit aussi en parlant des graphismes un peu, l'histoire elle est vraiment mêlée au gameplay, mais à un point vraiment super quoi. Je sais que c'est peut-être un peu bête de dire ça parce que c'est toujours le cas, il y a toujours des éléments de gameplay qui viennent renforcer l'histoire. Mais je trouve que ça se perd un peu dans les JRPG aujourd'hui. Et là, en utilisant les scènes de combat comme des façons de raconter des bouts de l'histoire vraiment importants, en utilisant la classe du personnage, du coup, on commence chevalier noir, on finit paladin, en utilisant même certaines capacités de personnage, il y a un de nos bonhommes à un moment donné qui s'appelle Gilbert, encore un nom pourri, qui a la capacité de se cacher, donc de partir de l'écran pour pas être tapé, parce que c'est un personnage lâche. Et Toketa a dit que c'était important pour lui que gameplay et histoire se renforcent, et ça semble assez évident que le fond et la forme se complètent. Mais je trouve que c'est de moins en moins le cas, et je crois que même Sakaguchi et Tokita disaient que c'était possible à l'époque parce que leur équipe était petite en fait. Du coup, les gens travaillaient dans une seule et même pièce, et celui qui faisait les combats pouvait parler à celui qui écrit le scénar, et ils pouvaient se mettre d'accord assez rapidement. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, de ce que dit Tokita dans une interview de 2008-2009 à la sortie du remake DS. Tout ça pour dire que l'histoire, elle est cool, elle est simple, mais elle est efficace, et les personnages sont mémorables, et je pense que je me souviendrai vraiment longtemps encore de Cécile, de Kane, de Rydia, de Rosa, et de tous les autres, quoi. Et c'est assez fort de pouvoir proposer une telle épopée sur une console 16 bits avec peu de moyens, et je comprends pourquoi à l'époque le JRPG c'était ce qui se vendait le mieux. En une petite cartouche, t'avais vraiment des heures et des heures de divertissement, de plaisir, et une histoire épique, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'amplitude, on te laissait imaginer plein de choses, du coup forcément que ça pouvait, en 91, qu'être la forme qui avait l'air la plus spectaculaire, la plus épique, encore une fois, de jeux vidéo qu'on pouvait faire, quoi. C'était l'aventure, tout simplement. Et quelle aventure! On arrive justement au gameplay du coup. C'est vrai que là on sent un peu l'âge du jeu au niveau qualité de vie, quality of life comme on dit. C'est dans ce genre de choses que Dragon Quest 11 était si agréable. Dans les FF qui suivront, je sais pas à partir duquel, il y a un curseur dead. T'appuies sur Select, ça te dit directement tel objet il fait ça, telle magie il fait ça, etc. Là c'est un peu plus dur de trouver les infos. Elles y sont mais faut les chercher, elles sont un peu moins accessibles. Donc ouais, c'est un peu dur parfois de trouver ce qu'on cherche, de bien comprendre, d'avoir toutes les infos. Mais bon, c'est normal, le jeu est vieux, on va pas se plaindre. Et puis là, pour le coup, le côté manque de moyens aussi fait que les quêtes annexes, pour le coup, sont vachement plus accessibles. Elles sont facilement trouvables. En fait, je sais pas, on va sur la carte, on regarde les donjons où on nous dit d'aller. Ah bah à côté, il y a une autre caverne, qu'est-ce que c'est? Je vais dedans, bim, quête annexe, donjon supplémentaire. Simple, efficace, que demander le peuple? C'est à côté de nous, il n'y a pas à aller à la 36e minute au 4e village et parler au 4e mec à gauche pour déclencher la quête annexe. C'est juste une caverne qu'on ne demande pas d'explorer, mais qu'on peut explorer si on veut. J'ai vraiment kiffé ce côté beaucoup plus accessible et franc du collier qu'avaient les quêtes annexes, quoi. Et puis je trouve que le jeu joue bien avec son gameplay. À un moment donné, une grotte, un donjon, où on ne peut pas utiliser d'objets en métal, et du coup nos armes ne marchent plus, nos armures ne font plus rien. C'est assez intéressant quand le jeu prend ses règles et les tord un peu. Pareil, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça dans les JRPG, le fait qu'on joue un peu avec les règles. Je me souviens d'un donjon dans FF9 où je crois que les armes les plus fortes deviennent les armes les plus faibles, et vice-versa. Mais j'aimerais voir ça plus souvent. J'ai des souvenirs de JRPG où les règles sont les règles, et on fait des systèmes sur des systèmes sur des systèmes, des sortes de millefeuilles, un peu comme dans Tales of Vesperia, qui rend le truc complexe, qui rend le truc intéressant, il y a plein de choses à faire. Mais là, avec un système très simple, très basique de JRPG, eh ben, on va pas vraiment rajouter des systèmes en plus, parce que là, il n'y a pas la place. On va juste jouer avec le système qui existe, le temps d'un donjon. Je trouve ça simple et efficace, un peu élégant, j'ai envie de dire. Et j'ai bien apprécié ça aussi. On peut noter un petit moment de pause, un petit moment de célébration, c'est le premier jeu qu'on fait. Quatrième épisode avec des rencontres aléatoires, qui est pourtant une des bases du JRPG. C'est-à-dire que vous vous baladez sur la carte du monde ou dans une grotte, et là d'un coup l'écran se brouille un peu, et vous êtes transporté dans une scène en 2D où votre groupe de personnages fait face à un groupe de monstres, et là hop, c'est le combat qui démarre. Dans tous les JRPG qu'on a fait jusqu'ici, il y a une différenciation entre le monde et le combat. C'est-à-dire qu'on va dans des scènes de combat, on rentre dans une fenêtre de combat qui n'est pas la même que la fenêtre d'exploration. Mais dans tous ceux qu'on a fait jusqu'ici, dans tous les jeux qu'on a fait jusqu'ici, on voyait les ennemis à l'écran. Du coup, on pouvait choisir de les esquiver ou pas. Là, pour le coup, c'est juste le nombre de pas qui détermine un peu aléatoirement, d'où le nom rencontre aléatoire, quand est-ce qu'un combat va se déclencher. Ce qui crée une sorte de niveau d'abstraction en plus. On ne peut plus voir les ennemis, on doit juste accepter le fait que on ne voit pas les ennemis, mais qu'ils sont là quand même. Il y a une sorte de surcouche, de surabstraction qui se rajoute, qui du coup, bah, là, rentre totalement dans ce qu'on disait, ce qu'on a déjà dit sur le côté contemplatif. On doit vraiment s'impliquer et accepter que le jeu raconte son histoire comme cela. Et c'est une règle un peu artificielle qui doit demander l'implication du joueur. Même si du coup, là, il n'y a que un monde, le combat, et c'est tout. Il n'y a pas comme dans Tales of, quatre façons différentes de raconter l'histoire. Ah, je sais, je parle souvent de Tales of et tout ça, mais ça m'a agacé qu'il y ait autant de moyens différents de raconter l'histoire. Donc j'en parle souvent. On en arrive au combat justement, et c'est là que se situe une des plus grosses innovations du jeu, à savoir l'introduction du système ATB, l'Active Time Battle. Donc on n'est plus au tour par tour, c'est plus je te tape, tu me tapes. Là c'est des jauges qui se remplissent au fur et à mesure du temps, et quand la jauge est remplie, le personnage peut attaquer. Donc c'est un mix entre tour par tour et temps réel. C'est un système qui sera repris pendant assez longtemps dans les Final Fantasy, et qu'on peut quand même un peu modifier parce que il y a deux modes d'ATB, il y a le mode actif et le mode wait, le mode attente. Dans le mode attente, quand votre jauge est remplie et que du coup les commandes de votre personnage s'affichent, là le temps s'arrête et vous avez le temps de bien choisir ce que vous voulez faire comme action. Moi j'ai toujours joué comme ça, j'avoue, dans les FF. Voilà, je vous dis, bon bah peut-être que c'est une honte. Et là, j'ai décidé de changer un peu et de rester en mode actif. Donc même pendant que je choisis mes attaques et ce que je veux faire, le temps continue à s'écouler et les ennemis peuvent m'attaquer. Et on peut dire que c'est pas la même histoire. Hein. Ah, clairement, c'est un peu plus stressant, faut être assez concentré. Le jeu est dur en plus. J'ai dû grinder pas mal de fois à des moments pour m'en sortir. Et du coup, faut vraiment être concentré tous les instants. Là, c'est pas je sauve le monde en fumant ma clope, comme je l'ai déjà dit. Là, vraiment, faut être un peu sur le qui-vive, quoi. Vu que j'ai décidé enfin de passer dans la team active. Du coup, ouais, bon système de combat. Un peu plus dynamique que le tour par tour. Et voilà quoi, ça fait plaisir tout simplement. C'était dynamique, c'était stratégique, c'était contemplatif, tout ce qu'on aime dans le JRPG. Système de combat aux petits oignons, Ça n'a pas vieilli d'un poil pour le coup. Et j'aime vachement les animations pendant les combats. Donc là, c'est le travail de Kazuko Shibuya, qui est encore une fois assez peu cité dans l'équipe de FF, mais qui fait un super taf. Et j'aime vachement du coup ces combats, qui d'ailleurs sont assez innovants pour l'époque, mais dans la façon dont ils sont représentés, parce que c'est peut-être les premiers systèmes de combat de JRPG, puisque le premier FF sort en 87, qui sont représentés en 2D vu sur le côté. Dans Dragon Quest 1, on reprend le mode de présentation à la Wizardry, à la Ultima, les RPG occidentaux dont s'inspirent les créateurs de Dragon Quest. Donc on s'est en vue à la première personne, on ne voit que le monstre, on ne voit pas son personnage. Alors que dans Final Fantasy, depuis le premier, on voit les monstres d'un côté, sur la gauche, et notre équipe sur la droite. Du coup, on voit nos personnages attaquer, c'est une présentation assez différente. Je crois que celui qui a créé le système de combat, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, évidemment, peut-être d'entendre mon chat qui vient de sauter sur mon bureau pour m'empêcher de parler. Mais je vais dire ce que j'ai à dire quand même. Non à la censure. Le système de combat, quand il a été créé par je ne sais plus qui, pour FF1, cette vue en 2D, vue de côté, assez originale pour l'époque, elle a été comparée tout de suite par le créateur à une scène de théâtre. Et ça, ça m'intéresse pour un truc que je vais dire maintenant en fait. Parce qu'il y a un combat dans ce jeu en particulier, FF4, qui m'a marqué, mais fou, c'était une expérience incroyable. Quelque part, tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, ça me faisait arriver à ce moment-là précis. Donc attention, mettez un peu plus de son, faites une petite pause dans la vaisselle, on y va. En gros, il y a une quête annexe quand on arrive sur la lune, parce que je vous rappelle quand même, on va sur la putain de lune à la fin de ce jeu, qui nous fait affronter Bahamut. Bahamut, c'est une invocation assez connue dans les Final Fantasy, parce qu'une de nos personnages, Rydia, est une invocatrice et peut invoquer des monstres hyper stylés contre beaucoup de points de magie. Bahamut, c'est une sorte de dragon qui est un peu le dieu qui gère toutes les invocations. Donc il a une place importante dans l'univers du jeu, même dans tous les Final Fantasy, parce qu'il revient assez souvent. C'est pas personne, Bahamut. Et effectivement, le combat, il est hyper dur. Je suis avec mes 5 petits bonhommes, parce qu'une équipe de combat, c'est 5 personnages. Dans FF4, ce qui est assez agréable, hein, souvent c'est 4. Bref, je m'égare. Mes 5 bonhommes, on affronte Bahamut. On va le niquer, après je pourrai l'utiliser en combat en tant qu'invocation, super. Il fait une attaque, tout le monde meurt, sauf Kane. Pourquoi ? Parce que Kane, c'est un chevalier dragon, un dragoon. Pareil, c'est une classe de personnage qui revient dans beaucoup de FF. Et en fait, cette classe-là, il a une capacité assez spéciale, ils peuvent sauter. C'est-à-dire qu'ils font une attaque, en gros, ils s'élancent, ils sautent, et du coup, pendant quelques instants, quelques secondes, ils sont plus du tout sur l'écran, donc on peut plus les attaquer. Et après, bim, ils retombent sur l'ennemi avec leur lance. Du coup, Kane, il a pu esquiver les attaques dévastatrices qui one-shot tous mes bonhommes de Bahamut parce qu'il était en train de sauter. Du coup, il a esquivé l'attaque. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était mort sauf lui et qu'il a esquivé toutes les attaques de Bahamut et que j'ai battu Bahamut uniquement avec Kane parce qu'avant, chaque grosse attaque qui m'aurait tué direct, hop, Kane, il sautait. Et du coup, après, il retombait, etc., etc. Combat un petit peu long, mais quelle classe! C'est super! En plus, du coup, tout se rejoint, parce que c'était vers la fin du jeu, ça. Kane, je vous ai dit, il nous l'a fait à l'envers plusieurs fois. C'est un jeu sur la rédemption. C'est un jeu où les scènes de combat sont utilisées pour porter l'histoire, pour porter des moments importants de l'histoire. C'est en plus une présentation, une représentation des combats qui a été pensée tout de suite pour sa théâtralité. Et là, autant le scénario que le gameplay, qu'en plus les graphismes évocateurs, tout s'est mélangé pour faire un combat mémorable. Parce que du coup, j'ai pu battre Bahamut, alors que j'aurais pas dû le battre, j'étais sûrement d'un niveau trop faible, vu que tout le monde est mort d'un coup. Kane, il avait des choses à prouver, fallait qu'il se rachète, autant dans l'histoire qu'auprès de moi, parce que bon, il est un peu chiant, il y a des moments où il nous a mis dans la merde. Le gameplay participe à ça, parce que du coup, c'est une capacité des dragons qui fait qu'il peut sauter et esquiver. Pareil, c'est du temps réel, en tour par tour, ça aurait pas marché. J'aurais tapé, il m'aurait tapé. Là, le timing était assez bien maîtrisé. J'attendais un peu. En fait, il y avait une sorte de décompte. 5 à 3, 2, 1 avant que l'attaque se lance. Donc moi, je sautais à 3 et pas à 5. Sinon, ça aurait pas marché. Tout ça s'est mélangé pour faire un combat mais mémorable. Quoi. C'était incroyable. Quel moment j'ai vécu, mes amis. J'ai crié chez moi. C'était super. C'est le meilleur moment de JRPG pour l'instant que j'ai vécu depuis très 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 longtemps. Et tout ça est permis autant par les graphismes qui évoquent, par le scénario qui parle de rédemption, par le gameplay qui tout au long du jeu est imbriqué à l'histoire, à tel point que des scènes de combat racontent des histoires. Donc là, ce combat optionnel que moi je vivais pouvait déjà, par nature, par la façon dont il est utilisé dans le jeu, être le support d'une narration, ma narration. Du coup, je pouvais me faire une histoire parce qu'on m'avait déjà montré que c'était un bon support narratif. On avait déjà présenté les combats, pas juste comme des choses un peu isolées, abstraites dans leur coin, mais comme des supports narratifs. Et là, c'était le support narratif de mon histoire personnelle, amené par l'aléatoire du gameplay, amené par le temps réel du gameplay, amené par, par FF4, quoi, par toute cette équipe de gens brillants qui m'ont fait avoir un moment de jeu vidéo incroyable. C'est super. Putain. Et je l'ai bien niqué, Bahamut. Et après, j'ai utilisé tout le temps à la fin du jeu, et il m'a bien permis de niquer la gueule du dernier boss. Ah, incroyable. Vraiment, quel super moment. Et tout ça, bien sûr, c'est voulu par Tokita et permis par tout ce qui a été mis en place. Donc vraiment, c'est pas juste moi qui en fais trop, c'est pas juste moi qui suranalyse. Tout ce que j'ai dit avant se tient et se retrouve et permet ce moment-là. Et fou, c'est incroyable. Je vous jure, incroyable. Je termine par en balancer une pour Nobuo Uematsu, le compositeur des musiques. Les musiques, elles sont super. Je les adore. En même temps, je suis pas objectif. C'est des thèmes de Final Fantasy qui reviennent assez souvent, donc j'ai déjà un peu l'oreille habituée. C'est des BO que j'écoute souvent, celle de FF9, celle de FF7, etc. J'écoute plein de reprises et tout, donc voilà, je suis déjà un peu un petit FFOS, quoi. Donc il y a plein de thèmes qui me parlaient déjà. Et je trouve ça assez intéressant que cette série qui, du coup, à chaque épisode, recrée un univers, recrée des personnages, mais en gardant malgré tout quelques piliers fondamentaux, ben, ce choix-là, il se retrouve dans la musique. Il y a des thèmes spécifiques à FF4, mais des thèmes qu'on retrouve dans tous les FF et qui sont un peu remixés pour l'occasion. Alors là, je dis rien de très intéressant, je pense que tout le monde l'avait déjà remarqué, mais je le dis quand même. Je trouve ça cool que la musique et la façon dont elle soit composée, avec des motifs qui sont repris de jeu en jeu, liés à des compositions originales, soit le calque de la façon dont les jeux sont gérés, dont la franchise Final Fantasy est gérée. Voilà, donc ouais, super musique. Et ben voilà, cet épisode qui est mis si longtemps à venir, on l'a fait finalement. Et quel épisode, quel jeu ? Il a beau avoir 30 ans, c'est vraiment un grand cru, un grand millésime, qui pose beaucoup des bases qui seront utilisées très longtemps par les FF, qui a vraiment une ambition folle pour un jeu qui a 30 ans, et qui arrive vraiment à donner des sensations fortes, des sensations pures. En tout cas, moi, face à Bahamut, j'étais fou. C'était incroyable. Et c'est dommage que le jeu auquel j'ai joué ne soit pas accessible, ou en tout cas difficilement. Parce que vous, si vous voulez jouer à FF4, vous aurez la version DS, où il y a pas mal de changements, où il n'y a pas ces graphismes en 2D, où le jeu, je pense, est beaucoup moins rapide dans son exécution, dans son scénario, parce qu'il y aura plus de dialogue, vu qu'ils ont pu rajouter tout ce qu'ils avaient coupé dans le script. Le jeu, après la Super Nintendo, était déjà sorti sur pas mal de plateformes, sur PlayStation, sur GBA, je crois, et c'était le logo avec Kane, avec sa lance, qui était derrière le nom FF4. Et depuis la version DS, c'est un autre logo qui a été toujours fait par Amano. Mais qui du coup est un peu différent, où on voit Golbez, le méchant, en train d'essayer d'attraper un cristal. C'est pas grand chose, mais moi je trouve que le focus qui est mis sur Kane dans le premier logo, il fait plus sens par rapport à cette histoire de rédemption, etc. que de s'intéresser au grand méchant qui lui aussi, à la fin, a une histoire de rédemption, mais qui est beaucoup moins intéressante, dans laquelle on est beaucoup moins impliqué. Donc je trouve que les changements, j'ai pas joué à la version DS, ou en tout cas très peu, mais ça m'interroge le fait qu'ils aient changé de logo, le fait qu'ils aient rajouté beaucoup de scripts sur est-ce qu'on a encore le même jeu, et comment ça se fait qu'on puisse pas jouer aux deux, si les jeux sont si différents. Donc ouais, je pense que le jeu là que j'ai joué, l'expérience que j'ai vécue, c'est très triste niveau conservation du patrimoine vidéoludique, qu'elle soit pas facilement accessible. Et que si vous voulez jouer aujourd'hui à FF4, vous aurez droit à un remake qui est peut-être super, mais qui n'est pas le même jeu. Parce qu'il y a des scènes en plus, parce qu'il y a du gameplay différent, parce qu'il n'y a pas le même rythme, etc., etc. Vous ne pourrez sûrement pas avoir l'expérience Stavro contre Bahamut telle que je l'ai vécue, quoi. Ou une autre, hein, s'il y a un autre boss avec qui ça vous fait ça, ou alors une autre histoire qui est la vôtre, ça sera pas pareil. Parce que là, du coup, le combat sera le combat, sera pas présenté de la même façon, il sera pas utilisé pour raconter l'histoire, parce que dans mes souvenirs, c'est des scènes cinématiques en 3D moche qui sont utilisées pour raconter l'histoire, pas les scènes de combat en 2D. Donc non, on perd quelque chose. Et c'est super triste, et ça montre que le médium est pas encore assez mature pour se rendre compte de l'intérêt que peuvent avoir un original et un remake. Aujourd'hui, je peux voir Les Visiteurs et Les Visiteurs version américaine qui a été refaite, ou Intouchables avec Omar Sy et intouchable avec Bryan Cranston. Voilà. Je peux voir les deux. Bah, FF4, bah là, j'ai pu y jouer, c'est pas impossible, mais légalement, sur le marché, très très dur de pouvoir jouer à l'expérience japonaise originale, qui pourtant a plein de choses à dire, même encore en 2021. Et donc voilà, notre premier FF, c'est fait. Je sais pas lequel on fera ensuite, mais c'est fait. Alors ça serait quoi FF4 dans notre village des JRPG ? On a déjà, si je me trompe pas, un glacier, un pâtissier, un restaurant. Beaucoup de bouffe en fait, hein. Bah là, pour le coup, je pense qu'on aurait une bibliothèque, une médiathèque, ce que vous voulez. Pour moi, FF4, c'est vraiment cette sensation de t'es petit, tu vas à la médiathèque parce que t'aimes bien lire, etc. Et tu tombes sur un truc... un peu mis en avant, une BD que tu connais pas, un livre un peu ancien, que t'aurais pas jamais lu tout seul. Tu lis la quatrième de couverture, ça t'intéresse, tu te poses dans un fauteuil, tu lis, en fait t'es happé, alors que tu pensais pas, parce que c'est pas un truc qui t'aurait attiré de base, un truc qui a l'air un peu vieux, un peu à l'ancienne, et finalement c'est incroyable et tu y trouves ton compte, et c'est quelque chose dans laquelle tu vas vraiment t'impliquer personnellement, parce que c'est un livre, parce que c'est une BD, et pas un film ou un jeu vidéo, et du coup ton imagination doit compléter les trous, et c'est ce qui se passe pour FF4. Donc ouais, FF4, c'est une bonne bibliothèque à l'ancienne dans lesquelles on traînait quand on était plus jeune, pour ceux qui sont sortis en même temps que FF4, comme moi, parce qu'il n'y avait pas toujours Internet à la maison. Donc voilà, fallait lire. Incroyable en tout cas. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Le mois prochain, alors, vous avez pu vous rendre compte que j'ai une fâcheuse tendance à annoncer un jeu et à en faire un autre. Et presque j'ai l'impression d'y trouver un certain plaisir un peu rebelle, de dire « je devais jouer à ça, bah non, je vais jouer à autre chose et ce sera beaucoup mieux ». J'ai fait ça à chaque fois en fait, hein, si vous écoutez les épisodes. Dans le premier, j'ai changé, à la fin, il y a une voix de robot qui dit « Tales of Vesperia » parce que de base ça devait être Chrono Trigger. J'ai commencé à y jouer, ça m'a saoulé, j'ai joué à Tales of. Dans Super Mario RPG, j'y ai joué parce que ça m'a saoulé de jouer à FF12. Et là, je devais jouer à Suikoden, et à la place, je jouais à FF4. Du coup, là, je vais annoncer un jeu, peut-être ça en sera un autre. Parce qu'apparemment, j'aime bien me faire des feintes, et vous faire des feintes. Donc normalement, mon plan, c'est de jouer à Pokémon version argent, le mois prochain. Et je sais qu'on a un épisode de retard, il y a un mois où j'en ferai deux d'un coup. Là, c'est peut-être pas ce mois-ci, parce que pas encore sorti de la smoule, le petit Stadro. Mais bon, on espère en donner, compenser ce retard. Et c'était un peu quelque part des vacances que j'ai pris avant l'heure, voilà, on n'a qu'à le voir comme ça. C'est un système ATB, faut que la jauge soit remplie pour que le podcast sorte. C'est pas que du tour par tour, pas que du mois par mois, c'est un peu plus dynamique que ça, hein. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si ça vous plaît ce qui se passe ici, dans vos oreilles, à mettre 5 étoiles sur iTunes. Et je sais bien, je le sais, que c'est super chiant, que personne n'utilise iTunes, que vous n'avez peut-être même pas envie d'avoir iTunes sur votre PC parce que c'est une application de merde. Mais chacun sa quête, hein. Votre quête à vous, c'est d'installer cette application nulle et d'aller mettre 5 étoiles à un niveau supérieur pour que les gens le connaissent et que je sois mieux référencé. Si vous avez la flemme de faire ça et que vous êtes riche, vous pouvez me donner 1 ou 2 euros sur le Ko-fi de l'émission qui est dans la description de l'épisode. L'argent collecté servira à réparer le ventilateur de mon PC. Je crois qu'il s'entend pas trop, donc tant mieux, mais ça reste chiant en tout cas, sachez-le, moi je l'entends. Bon, soyez pas égoïste. Et puis bah voilà, merci à vous, merci pour les retours, merci de me suivre. On est une petite commu, hein, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à la faire grandir en parlant autour de vous. Et puis bah voilà, on va se quitter avec... vous savez quoi, hein, si vous le savez. On va se quitter avec moi qui vous dis, n'oubliez pas de faire de votre mieux, dans la vie comme dans les jeux, pour passer au niveau supérieur.